Bonjour à tous, bienvenue dans l'Esprit Public, une heure pour analyser les temps forts de la semaine politique et géopolitique avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, la philosophe Monique Cantos-Perber, le chercheur en sciences politiques Manuel Cervera-Marzal, le professeur de relations internationales Bertrand Badie et le politologue Dominique Régnier. Au sommaire de ce dimanche 24 novembre, sortir le carnet de chèques pour réparer la France et puis Israël-Palestine, un conflit oublié. C'est dans 11 jours, ce que certains appellent désormais le mur du 5 décembre, grande grève interprofessionnelle qui pourrait paralyser une partie du pays. Voici donc une nouvelle fois le pouvoir confronté à une polyphonie de mécontentements, notamment celle du monde hospitalier à qui il a annoncé cette semaine 1,5 milliard d'euros de crédits supplémentaires pour distribuer différentes primes au personnel et surtout la reprise en 3 ans d'un tiers de la dette accumulée par les établissements français, soit 10 milliards d'euros. L'accueil de ce plan a été mitigé. Sur le sujet des retraites à présent, le gouvernement doit recevoir syndicats et patronats demain et après-demain, tandis que le Conseil d'orientation des retraites a remis au gouvernement un rapport qui confirme que le déficit des régimes devrait atteindre 8 à 17 milliards d'euros en 2015. Quinquennat Macron, deuxième partie, le temps du carnet de chèques pourrait-on dire. Si l'on se souvient que depuis la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a revalorisé de 40 euros le salaire des policiers, qui appellent eux aussi à manifester le 5, baissé de 5 milliards les impôts, une mesure ciblée sur les classes moyennes, opéré une défiscalisation et une désocialisation des heures supplémentaires, augmenter de 100 euros les rémunérations qui sont au niveau du SMIC, supprimer la hausse de la taxe carbone, baisser la CSG des retraités modestes notamment. Quels effets de cette politique du carnet de chèques sur cette société française éruptive où les colères perdurent, nourries par le sentiment d'un accroissement des inégalités, où les mouvements de contestation sont facilités par les réseaux sociaux avec ces nouvelles formes de mobilisation horizontale. Autant de sujets qu'aborde le dernier livre sorti cette semaine de Pascal Perrineau, Le Grand Écart ou la chronique d'une démocratie fragmentée, posant avec précision le diagnostic d'une Europe arrivée en fin de cycle, des citoyens qui ne voient plus ce que leur apporte l'État-providence, avec ce que Pascal Perrineau appelle une nouvelle grammaire de l'action où le registre émotionnel et affectif serait prédominant. Comment dès lors diriger cette France-là? Avec quel carnet de chèques? Quel remède miracle?
Je vois un risque, c'est l'individualisme. C'est de dire la réponse au débat, ça doit être 66 millions de réponses. Et ne bougez pas, j'ai mon chéquier dans la poche et je vais vous faire une réponse à chacun, ce sera bien.
Je n'ai pas annoncé le plan en me disant que le lendemain, tout le monde allait crier « Hourra !» dans ses lagigues en disant « Tout est réglé ». Bien sûr que non. On essaie de redonner des perspectives, de redonner des marges de manœuvre et on essaie de traiter les urgences les plus criantes de façon à ce que l'hôpital vive et se développe.
Voilà, on a entendu une archive d'Emmanuel Macron en avril 2019 devant des maires en Bretagne. C'était pendant le grand débat. Et puis Édouard Philippe qui était l'invité de France Inter jeudi matin. Dominique Régnier, est-ce qu'il est justifié, à votre avis, selon vous, de parler de mur pour cette grande manifestation qui se prépare le 5 décembre prochain? Et de quoi ce mur est-il le nom?
Je ne sais pas ce que sera la... La manifestation du 5 décembre, on verra. Il y a une mobilisation qui est annoncée, des convergences qui s'expriment, qui vont jusqu'à voir le Parti socialiste promettre d'en faire partie. On voit une partie de la droite qui se réjouit. En fait, c'est comme si cette difficulté-là à laquelle nous sommes collectivement confrontés avait une histoire récente, alors même que pour tous les grands compartiments qui sont impliqués dans cette crise, l'hôpital, les transports publics, les services publics d'une manière générale, mais aussi le niveau de vie de nos compatriotes, tout cela évidemment procède d'une crise historique de longue ampleur. Et aucun des acteurs qui va défiler, les syndicats comme les partis politiques, n'ont dans le passé montré la moindre capacité à trouver les solutions. Moi, je voudrais interroger un point de contradiction qui me paraît de plus en plus fort. Si on prend un exemple, qui est celui des dépenses de santé, leur évolution aujourd'hui est une hausse en moyenne de 4,4% par an. Je crois que toute personne qui prend connaissance ou qui se remémore ce chiffre comprend que dès lors, il faut au moins une croissance économique équivalente si on veut maintenir ce niveau de dépenses de santé en France. Et là, on ne sait pas comment on peut y arriver, puisque la France, là, se situe pas si mal en termes de croissance, puisqu'on est à 1,2, 1,3. C'est pas si mal, hein. Pour une fois, on est plutôt pas mauvais par rapport à quelques voisins, notamment les Allemands. C'est pas sûr que ça tienne, mais il y a déjà un écart très important. Et on se demande comment on peut le combler. Et puis, moi, je fais la relation avec un discours que l'on a tenu collectivement pendant pas mal de semaines et de mois, qui apparaît dominant, dont on nous dit qu'il fait l'accord de tous, qui est le discours sur la décroissance. Et je n'arrive pas à comprendre comment les mêmes partis, les mêmes syndicats, les mêmes organisations se retrouvent pour en appeler à la décroissance dans la perspective d'une lutte contre le réchauffement climatique, ne voient pas que c'est absolument contradictoire et qu'il y a en France aujourd'hui une réflexion à avoir, au moins une, sur la cohérence de nos discours collectifs, sur la cohérence de ce qui est demandé aux uns et aux autres, sans parler de la question de la justice sociale, peut-être qu'on y reviendra, mais qui est au moins de savoir si on veut, en France, une croissance économique beaucoup plus forte, qui permettra de faire face à ces dépenses auxquelles nous tenons, parce qu'évidemment, elles sont les dépenses d'une société qui est celle de la dignité, du soin. Bien sûr, nous y sommes tous attachés, mais à quelles conditions peut-on maintenir ce haut niveau de dépenses ? Je parle de la santé, mais il en va de même pour les retraites, puisque les projections du corps, je m'arrête là, mais les projections du corps considèrent que c'est avec une croissance relativement satisfaisante qu'on arrive à maintenir le niveau de dépenses annuelles des retraites, c'est-à-dire 325 milliards d'euros par an pour la retraite.
Alors, pour être précis, en effet, peut-être distinguons les deux dossiers en réaction à ce que vient de dire Dominique Régnier, Emmanuel Cervera-Marzal. Et d'abord, en effet, sur ce dossier hospitalier, est-ce que le chèque de la semaine, c'est-à-dire 1,5 milliard de crédits supplémentaires plus 10 milliards de reprise de la dette, change un peu, beaucoup, rien du tout à la donne, c'est-à-dire à cette colère, à ce malaise social qu'on entend s'exprimer? Est-ce que ce mouvement social, c'est encore dire avec précision ce qu'il attend du pouvoir, ou est-ce que vous parleriez, comme Dominique Régnier, d'une relative incohérence?
Non, mais il faut lever deux mensonges, là. On parle d'un chèque que le gouvernement et Agnès Buzyn viendrait d'accorder à la santé, aux hôpitaux, de 1,5 milliard en réponse à la mobilisation des urgentistes et des hospitaliers. Mais il faut revenir un an en amont. Il y a un an, Agnès Buzyn a annoncé une baisse des investissements publics dans la santé de 12 milliards. Et là, aujourd'hui, face à une mobilisation massive, elle explique que bon, en fait, ce sera pas 12 milliards de coupes, ce sera seulement 10 milliards et demi. Donc c'est pas, le gouvernement vient pas d'investir 1,5 milliard dans la santé, il vient de faire une économie de 10 milliards un peu inférieure à ce qu'il avait initialement annoncé. Donc excusez-moi, mais on est encore extrêmement loin de la hauteur des enjeux, hein, parce qu'il faut les rappeler, ils sont très concrets derrière les chiffres. On parle de patients qui meurent dans les brancards, qui meurent en faisant des tours dans les ambulances autour des hôpitaux. On parle d'aides-soignantes et d'infirmières au bord du burn-out qui se suicident. Donc voilà, c'est ça la réalité. Et le deuxième point, c'est dans l'annonce là qui a été faite par le gouvernement, c'est sur la reprise partielle de un tiers de la dette publique. Un tiers de la dette des hôpitaux va être reprise par l'État. Bon, mais cette dette, en fait, il faudrait tout simplement l'annuler, pas la reprendre. Il faut faire un audit, voir à qui elle appartient. Et moi, je devine assez facilement qu'elle appartient assez peu à des Français ordinaires, voir à qui elle appartient. Et si elle appartient aux plus riches, tout simplement l'annuler. Et ça permet de soulever cette question dont on parle beaucoup trop peu, la question de la dette publique, de la dette de l'État français, puisque c'est au nom de cette dette que depuis des années, on détricote l'État social, que on bloque les salaires des fonctionnaires, qu'on ferme les écoles et les hôpitaux. Et cette dette de l'État français, qui a effectivement doublé en une trentaine d'années, elle est due à quoi? Non pas une augmentation des dépenses sociales, celles-ci ont stagné. Elle est due à trois choses, la dette publique en France. Premièrement, l'évasion fiscale, plus de 100 milliards d'euros par an. Deuxièmement, les niches fiscales, les cadeaux fiscaux faits aux grandes entreprises et aux plus riches, c'est un tiers aussi de l'augmentation de la dette publique en 30 ans. Et troisièmement, la crise de 2008, où avec l'argent du contribuable, on a sauvé les banques à hauteur de dizaines, voire centaines de milliards d'euros qui n'étaient pas disponibles pour les lits d'hôpitaux et les écoles, mais on les a trouvés en un claquement de doigts pour les plus grandes banques. Elle est là, aujourd'hui, la dette publique française. Donc on sait très bien où est-ce qu'il faut aller chercher l'argent. Il n'y a pas besoin de plus de croissance, il y a juste besoin d'une meilleure répartition.
Monique Kantos-Perber, que vous inspire au fond la cohabitation dans notre pays de ces deux raisonnements-là que nous venons d'entendre en ce début d'émission?
Je voudrais revenir sur la situation actuelle. Alors, elle est en partie due à une crise sociale majeure, j'aurai l'occasion d'en parler. Mais elle est aussi en partie due quand même au relatif raté de l'action gouvernementale. Une série de réformes ont été proposées qui étaient sans doute justifiées. Et c'est tout à l'honneur de ce gouvernement de s'attaquer à des problèmes véritables de la société française. Mais elles sont... Et il y a un engagement incontestable de la part de ceux qui nous gouvernent. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais d'un autre côté, les réformes ont été conduites sans véritable consultation, sans prise en compte de l'avis des parties prenantes, sans expérimentation, sans conscience aiguë des conséquences concrètes que ça peut avoir sur la vie des personnes. Et là, je crois que l'on arrive, au fond, aux limites d'un certain type d'exercice qui suscite une forte réaction dans l'opinion publique et qui peut provoquer une véritable coalition des intérêts qui seraient apparemment divergents, en particulier ceux des salariés du privé plutôt précarisés qui étaient le gros, qui fournissaient l'essentiel des gilets jaunes et également de la fonction publique, des salariés de la fonction publique qui ont aujourd'hui le sentiment d'être fortement maltraités. Mais à côté de la crise sociale, je pense qu'il y a une crise de l'action politique du type de gouvernementalité, comme on dit, qui d'une certaine façon en dit beaucoup sur les limites intrinsèques de ce qu'est une politique publique aujourd'hui et qui en dit beaucoup aussi sur l'état du secteur public. Parce qu'il n'y a pas seulement l'hôpital, il y a aussi la SNCF. Là, je ne parle même pas des retraites, je parle du mouvement d'exaspération qui a provoqué plusieurs semaines de grève sur certains circuits TGV à cause du sentiment que les employés de la SNCF ont du fait qu'ils ne peuvent pas exercer leur métier dans des conditions acceptables pour des raisons de sécurité, à cause d'un défaut de maintenance et d'entretien. Les policiers, les pompiers, enfin de très nombreux secteurs du service public ont ce sentiment d'abandon, de relégation, que l'État n'est pas à la hauteur de ce qui est quand même le domaine où il devrait être véritablement efficace, c'est-à-dire ses missions premières. Alors, pour l'hôpital, évidemment, il y a des réformes, des propositions tout à fait intéressantes. Il vaut mieux 1,5 milliard que rien. Mais cela dit, et qui ont été précédées par d'autres réformes un peu plus structurelles sur l'hospitalisation de jour, sur des réformes plus organisationnelles. Je suis très sensible au fait dans cette réforme qu'un pouvoir accru est donné aux médecins dans la gestion des hôpitaux. Mais il reste que ces propositions n'ont rien à voir avec la crise actuelle de l'hôpital. La crise actuelle de l'hôpital, elle est due à un problème de sous-financement chronique, qui a été évoqué d'ailleurs dans deux perspectives différentes, l'augmentation des dépenses de santé, environ 4%, et l'augmentation des crédits d'hôpitaux, qui est bien inférieure. D'autant que, comme on ne peut pas contrôler la médecine de ville, on pressure l'hôpital. On agit là où on peut agir, évidemment, même si c'est pas là nécessaire, même si c'est là qu'on aurait le plus besoin d'une aide sérieuse. Le problème de l'hôpital, c'est l'impossibilité de gérer les services hospitaliers. C'est un défaut d'égalité majeur en termes d'accès aux soins, un défaut d'égalité majeur en termes de prise en charge en fonction du lieu où on habite, des revenus dont on dispose, des contacts qu'on a. Aujourd'hui, il manque, des lits sont fermés faute de personnel. Il est de plus en plus difficile de trouver des personnels qui puissent venir travailler. On est en train d'assister à un mouvement de départ des médecins, alors que la réussite de la structure de santé publique en France avait été de garder à l'hôpital d'excellents spécialistes. Donc là, il y a un problème majeur. Pour le résoudre, il faudrait une véritable concertation, il faudrait respecter les propositions des connaisseurs du domaine, à commencer par les personnels hospitaliers, dont les avis quand même sont considérés d'emblée comme corporatistes et de ce fait non légitimes, et essayer de définir ensemble, parce que c'est un enjeu national, quel type de soins on veut dans notre société et quel type de prise en charge. C'est cela que l'hôpital a besoin. Et malheureusement, en dépit du caractère quand même parfois très positif de certains aspects de ces propositions ne répondent pas aux problèmes actuels de la fonction publique, de l'hôpital. Et au-delà, je pense que ce décalage est très significatif d'un malaise dans le service public.
Alors Bertrand Badi, votre regard de spécialiste des relations internationales sur ce malaise français, est-ce que, pour résumer très rapidement et grossièrement ce que vient de dire Monique Kantosperber, on est d'abord confronté à la limite de ce qu'est devenu l'action publique et peut-être au défaut d'efficience d'une gouvernance française, ou est-ce que cela nous renvoie à un malaise d'époque, à un malaise qui dépasse largement la situation française?
Oui, d'abord vous faites bien d'introduire la dimension internationale, parce qu'il y a une lecture internationale, je dirais même mondiale, de ces phénomènes. Et moi, ce qui me frappe, c'est deux choses qui vont dans le sens de ce que Monique Kantosperber vient de dire, mais peut-être de manière un petit peu, avec un éclairage un peu différent. Le premier, c'est que le social, malgré tout, est sorti de l'agenda politique. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas spécifiquement français, qui appartient à ce que j'ai appelé l'acte 1 de la mondialisation, et qui se traduit par un démantèlement du social. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dépenses, mais comme l'a très justement dit Monique il y a un instant, si les crédits ne suivent pas, ces dépenses ne font que entraîner un déficit qui devient lui-même problématique. Mais surtout, ce qui me paraît intéressant de constater, c'est que regardez les dernières campagnes présidentielles. Il est très accessoirement et marginalement question de problème de santé. Or, le problème de santé, c'est le problème numéro un des Français. Survivre, c'est quand même quelque chose qui est à la base de tous les comportements sociaux. Alors, on nous parle de sécurité, que l'on met à toutes les sauces, on nous parle d'immigration, qui est largement un faux problème, mais n'entamons pas le débat là-dessus. On nous parle de quantité de choses, mais du social, on ne parle pas. Ou on en parle par défaut. Ou on en parle sous forme de slogan, lorsque, par exemple, Jacques Chirac avait parlé de sa fameuse fracture sociale, et le lendemain de l'élection, on n'avait plus entendu parler. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire le sentiment que le social, qui avait quand même porté notre histoire politique depuis la fin du 19e siècle. Regardez les grandes étapes, les lois sociales de la fin du 19e siècle, le Front populaire, la libération, et puis tout d'un coup, ce social s'est évaporé des agendas politiques. Le deuxième élément qui me paraît articulé à celui-ci d'un certain point de vue, c'est que nous sortons du coup de la dialectique de la demande et de la réponse. C'est-à-dire que notre démocratie se fondait sur des revendications que les gouvernements satisfaisaient bien ou mal, plus ou moins habilement ou de manière maladroite, peu importe, mais notre grammaire politique était une grammaire de la demande-réponse. Aujourd'hui, le fossé est devenu tel que on est plus dans l'expression que dans la revendication, et du coup le politique n'a pas de prise, c'est-à-dire essaye, contrairement à ce qui a été dit par le président de la République, de sortir son chéquier à la hâte et en urgence quand la tension monte, sachant que de toute manière, comme on n'est plus dans une culture de la demande, la réponse tape à côté. Et effectivement, on a englouti des sommes considérables pour tenter de traiter le phénomène des gilets jaunes. On n'en a vu aucun effet du point de vue de la satisfaction attendue de ceux qui étaient porteurs de ces revendications.
Alors, sur ces deux points que vous venez d'exposer, Bertrand Badi, qu'en pensez-vous, Dominique Régnier? Pouvons-nous dire ou considérer qu'en France, le social est sorti de l'agenda politique? Et en effet, est-ce que vous considérez, comme Bertrand Badi, qu'aujourd'hui, les revendications ne s'expriment pas de façon suffisamment précise pour que la réponse politique soit adaptée?
Je comprends la formule, le social est sorti de l'agenda, mais je ne crois pas que ce soit une réalité, puisqu'on ne peut pas évacuer, en particulier de la sphère politique, la question sociale qui, par définition, est l'un de ses déterminants les plus fondamentaux. Après, il y a des débats et puis il y a des slogans, mais je pense que sur le fond, c'est tout à fait impossible. S'agissant de des demandes, nous avons une situation qui ne cesse d'être, je dirais, contredite par des attentes qui ne sont pas de même sens. Quand on dit, par exemple, comme on le dit même autour de la table, que Il s'agit de faire face à des besoins de financement qui n'ont pas été satisfaits. Mais on ne s'interroge pas sur le lieu où est caché ce trésor dans lequel on pourrait puiser sans fin pour satisfaire des demandes de financement. Peut-être qu'il y en a un qui est le CAC 40, qui fait partie de ces objets mythiques qu'on nous présente régulièrement. Alors moi j'ai regardé pour 2018 quand même pour voir sur les 373 milliards d'euros de revenus, ce qui est beaucoup, 262 milliards sont reversés aux salariés, 72 milliards aux États sous la forme de prélèvements et 36 milliards aux actionnaires. Et donc je suppose qu'on pourrait retirer aux actionnaires les 36 milliards qui leur sont versés aujourd'hui sur les 373 milliards générés par leur activité. Je pense qu'on peut le faire une fois, c'est-à-dire une année, et qu'il n'y a aucune raison d'imaginer que l'année suivante, les actionnaires referont leurs investissements dans les mêmes conditions pour aboutir à un résultat de zéro. Nous aurons donc 36 milliards en plus et une activité qui s'effondrera. On ne voit pas tellement, au fond, à part de l'idéologie, à part des slogans qui sont agités régulièrement et de manière très récurrente, on ne voit pas bien par quel miracle une économie comme celle-là continuerait à créer de la richesse. Je rappelle qu'en France, l'inégalité dont on dit qu'elle augmente, entre les revenus avant redistribution est de 1 à 22, après redistribution est de 1 à 6. Peut-être qu'on peut aller de 1 à 2, mais je doute que le système économique soit toujours à ce moment-là en mesure de créer de la richesse.
Alors Manuel Savera-Marzal, en réponse à ce que disait à l'instant Dominique Crénier, êtes-vous un idéologue ?
Je ne sais pas, visiblement on place le terrain sur celui qui a les faits, les chiffres, versus celui qui est l'idéologue, donc je vais essayer de répondre par des chiffres. Justin, depuis que le social a disparu de l'agenda politique, comme le disait Bertrand Badi, depuis que la vague néolibérale est passée sur la France, mais sur en fait la majorité des États de la planète, la répartition de la valeur ajoutée entre capital et travail, qui était de 70% pour le travail il y a une trentaine d'années et 30% pour le capital, est passée à 60-40. Ça, c'est un chiffre très abstrait. Mais il se traduit par le fait que chaque année en France, il y a 140 milliards d'euros qui sont passés de la poche des salariés à la poche des actionnaires. Ça veut dire que tous les salariés et toutes les salariées qui nous écoutent, chaque année se font prendre 5000 euros individuellement dans leur poche pour financer les actionnaires. Donc on parle beaucoup du coût du travail. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus du coût du capital. Rien que pour illustrer la contribution de notre gouvernement actuel à cette logique de Robin des Bois à l'envers, finalement, de confiscation du pouvoir par une ultra-minorité. Les réformes d'Emmanuel Macron, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE qui n'est pas une officine bolchevique, me semble-t-il. Les réformes d'Emmanuel Macron ont précipité 400 000 Français dans la pauvreté en 2 ans et ont permis aux 0,01% les plus riches de gagner 23 000 euros par an. Donc voilà, ça je veux bien. Après, il y a un point qui était vraiment important parce que vous ouvriez la discussion, Émilie Aubry, en disant suffit-il de sortir le carnet de chèques pour réparer la France ? Moi, évidemment, je pense qu'il faut sortir le carnet de chèques et qu'il faut arrêter de donner aux plus riches en prenant aux plus pauvres. Mais je pense que c'est largement insuffisant parce que on n'est pas uniquement dans une situation de crise économique et de question de répartition. On est dans une situation de véritable crise anthropologique. C'est une question de sens autant qu'une question de moyens. Pourquoi c'est une question de sens ? Parce que quand on a un président de la République, c'est lui qu'on est censé écouter, que les jeunes écoutent aujourd'hui, qui nous dit pendant sa campagne que le problème fondamental de la France, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un pays, je le cite, in extenso, où les jeunes ne veulent pas assez devenir milliardaires. Qu'est-ce qu'il propose ? Quel horizon de société ? Quel idéal est-ce que ce président propose à ses concitoyens, et en particulier à la jeunesse, de s'enrichir, de devenir le premier de cordée, c'est-à-dire en écrasant les autres ? C'est un idéal de vie qui est celui de la compétition, et je crois que face à ça, il y a quand même, vous parliez tout à l'heure de décroissance, toute une jeunesse qui s'investit dans le mouvement climatique et dans d'autres luttes qui portent un imaginaire alternatif beaucoup plus porté sur les liens sociaux que sur l'enrichissement et les biens matériels.
Alors, je vous laisse répondre, Dominique Crénier, sur cette bataille de chiffres. Je vous donnerai la parole.
Je pense que la gauche française, dans toutes ses acceptions, va devoir choisir entre la défense d'un État-providence et la décroissance. On peut se mentir et dire qu'on va faire les deux. Comme dit Aristote, on ne peut dire une chose et son contraire en même temps, en tout cas. Il faudra bien qu'il y ait là-dessus une cohérence. Moi, j'attends de voir les gauches françaises qui, d'un côté, dans une manifestation, en appellent à la décroissance, et de l'autre, à la hausse des investissements, à la hausse de la dépense publique ou à la hausse de la dépense tout court. Je pense qu'il y a une contradiction fondamentale. Il faudra qu'elle soit éclaircie.
Vous savez résoudre cette contradiction, Manuel Cervera-Marzal ?
C'est très simple. On peut à la fois décroître et et répartir mieux. On décroît parce qu'aujourd'hui, la croissance, elle est en train de détruire l'écosystème et aussi d'ailleurs de produire, de détruire le monde du travail. Donc on va décroître et en plus, en parallèle, l'argent qui est aujourd'hui extrêmement concentré au sommet, on va répartir mieux. Et donc de cette façon, on va concilier les deux à la fois.
Il y aura toujours des créateurs de richesse cependant dans
mais
votre
les
système.
Créateurs de richesse, c'est pas les actionnaires ou les patrons dont vous parlez. Les créateurs de richesse, c'est les travailleurs et les travailleuses qui tous les jours, avec la sueur de leur front, excusez-moi, ou avec leur matière grise et souvent avec les deux, produisent des richesses. On peut vous supprimer demain, vous faites partir tous les actionnaires et tous les patrons de France. Vous inquiétez pas, les travailleurs, ils continueront à travailler en autogérant de manière démocratique l'organisation du travail dans les entreprises.
Donc c'est l'autogestion la réponse aujourd'hui.
Bien, pas forcément sur l'autogestion encore que, Monique Kantos-Perber, peut-être vous voulez répondre sur ce point-là, ou sur l'autre point que soulevait Manuel Cervera-Marzal, à savoir cette crise anthropologique dont vous expliquez qu'elle était le centre de ce que nous vivions aujourd'hui, et de cette crise, cette quête de sens qui s'exprime également dans ce malaise social français.
Je suis très sensible à cette thématique, évidemment. Je pense que la crise contemporaine n'est pas simplement due à une question de répartition des richesses ou de croissance ou au choix entre croissance et décroissance. Il y a véritablement une question collective sur qu'est-ce qu'une communauté politique, quels sont les buts communs, quelle société voulons-nous. Et je regrette véritablement qu'aujourd'hui nos dirigeants ne soient pas du tout à ce niveau-là, ne soient pas capables de proposer une représentation d'un avenir pour lequel chacun, étant donné ses aspirations, ses intérêts et ses opinions, serait prêt à s'allier. Alors moi, dans ces discours et dans ces positions qui viennent de s'échanger, si vous voulez, ce que je sens quand même, c'est les restes d'une sorte de dirigisme social, c'est-à-dire de pilotage de la société à partir de l'État. Vous savez que je suis assez réservée à l'égard de ça. En revanche, ce qui me paraît tout à fait important, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'est toutes les actions qui aujourd'hui peuvent directement engager les citoyens. Je crois que véritablement, ce qu'on appelle la participation politique, la liberté politique est une valeur qui est en train de se perdre. Le sens que les citoyens ont de leur contribution, non seulement à l'exercice du pouvoir politique par la capacité de le limiter, de le contrôler, mais également constamment de le légitimer ou pas, et la capacité qu'ils ont également en quelque sorte diversifier la vie sociale est quelque chose d'essentiel. La croissance, c'est pas une prescription, c'est aussi le résultat d'activités décentralisées et libres, d'une multiplicité d'acteurs qui inévitablement sont des acteurs économiques. Alors bien sûr, nous avons besoin de régulation collective et de normes collectives, ça va de soi, qui doivent assurer aux plus démunis. Alors je ne dirais pas simplement des moyens d'existence. Moi je suis très attachée à l'idée d'atouts d'existence, c'est-à-dire leur donner des garanties qui leur permettent ensuite de développer leur projet de vie si ça leur est possible. Malheureusement c'est pas le cas. Je dis un mot sur les retraites quand même, parce
voilà,
que ça c'est un
merci,
sujet
fondamental. J'allais y venir. Et là, peut-être d'ailleurs pour vous inciter, peut-être pour Monique Kantos-Perber, s'il vous plaît,
problème.
Peut-être pour nous inciter, vous inciter à nous ramener en effet au cœur de ce problème, au cœur des retraites. C'est vrai que l'une des craintes d'ailleurs, paraît-il, dans l'entourage du chef de l'État, c'est qu'au soir du 5 décembre, ce ne soit pas tant les mots d'ordre sur les retraites qu'on ait entendu dans les manifestations, mais que cette journée-là se conclue sur le sentiment d'un malaise social d'ampleur. Est-ce qu'en effet, les retraites vont être au cœur de ce mouvement du 5 décembre ?
Oui, tout à fait. Et véritablement, à cause de la manière dont tout cela a été conçu et les messages brouillés qui nous sont envoyés. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas en fait de quelle réforme il s'agit. On nous parle d'une réforme par points. Bon, elle peut tout à fait se défendre. Il y a une légitimité à envisager les choses ainsi, puisque cela va uniformiser l'acquisition des droits à pension, en quelque sorte, et permettre la portabilité donc d'un métier à un autre métier, puisque tout le système sera homogène. Donc, en effet, c'est une très belle idée. On se dit, mais pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt ? Mais cela dit, l'équité d'un système de retraite ne peut se limiter à la valeur du point. Il faut tenir compte également des conditions de vie des personnes, de leurs perspectives de vie après retraite, de leur capacité même de souscrire une complémentaire privée, parce que c'est inévitablement à cela que l'on va arriver, et puis surtout prendre en compte l'historique. On ne fait pas des réformes comme ça qui seront perçues comme illégitimes parce que beaucoup de citoyens ont le sentiment que leurs droits soient lésés. Non, mais j'insiste sur ce point parce qu'il est essentiel. Aujourd'hui, on ne sait pas de quelle réforme il s'agit. Tout individu dans le système actuel, avec ses 42 système de régimes spéciaux, tout individu, c'est, dès qu'il a dépassé peut-être 55 ans, sait combien de trimestres il lui reste à faire pour avoir une retraite complète. Aujourd'hui, on ne sait pas, en fonction de la valeur du point, qui sera quand même toujours dépendant des finances publiques et du pouvoir politique, donc qui variera, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Il faudrait fixer un taux de compensation, 85%, 90%, je n'en sais rien, enfin, un taux de compensation, et définir à partir de cela le nombre de trimestres qui permet d'y parvenir. Or, quand on nous dit on va jouer sur la durée des cotisations, on sort de la logique du système à points. On est dans un brouillage total, le Français est inquiet, il est pessimiste, et je pense que c'est ça qui fera un des éléments d'agglutination.
Alors, merci de nous avoir en effet rappelé, Monique Cantos-Perber, que sur cette question des retraites, il y a au fond deux grands sujets. D'un côté, l'affronte de ceux qui sont directement impactés par la fin des régimes spéciaux et ces salariés, vous l'avez dit, qui voient de moins en moins clair sur les intentions du gouvernement avec tous les débats des derniers jours sur la clause du grand-père, sur l'âge légal, sur la durée de cotisation. Est-ce que c'est cette confusion ou ce flou dans la gouvernance qui explique ce que l'on va vivre ces prochains jours, Bertrand Badi?
Oui, je crois que vous recentrez bien le débat. En tant qu'internationaliste, moi je suis très sensible au dénominateur commun. Et le dénominateur commun, et qui dépasse donc la France, le dénominateur commun entre les sociétés qui font la planète aujourd'hui, c'est une crise sans précédent de confiance. Crise de confiance qui bloque toute réforme, c'est-à-dire même la plus belle des réformes. Le plus beau des cadeaux qu'on vous offre, si vous n'avez pas confiance dans la personne qui vous l'offre, vous dites, il y a un piège là-dedans, il y a un piège, ça va sauter, donc je ne le prends pas. On oublie de dire à quel point les niveaux de confiance politique sont bas, et pas seulement en France, un peu partout dans le monde. Et regardez les temps de grandes réformes dans l'histoire de France. La libération, le niveau de confiance dans les dirigeants, et pour des raisons évidentes, était très élevé. Le Front populaire, qui avait été porté par une dynamique, avait un capital de confiance. Et même si on ne peut pas exactement mesurer le capital de confiance à la fin de la troisième, à la fin du 19e siècle, les lois sociales étaient quand même portées par une adhésion aux institutions. C'est cette crise. Alors, si cette crise est générale, ça veut dire qu'il ne faut pas gratter dans le sous-sol français pour trouver les causes de notre malaise d'aujourd'hui. C'est un phénomène beaucoup plus global qui tient à quoi ? Nous appartenons à une génération, moi c'est quelque chose qui me frappe de plus en plus, qui avons vécu dans deux mondes en même temps. Moi je suis né dans un monde international et je vais connaître le froid éternel dans un monde globalisé. C'est-à-dire deux mondes tout à fait différents.
Et réchauffés.
Oui, mais là j'en profiterai pas beaucoup. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'incapacité de produire une grammaire politique face à ces changements crée une chute sans précédent dans la conscience du gouvernement. Enfin, imaginez quand même que l'on nous présente la question de l'immigration comme étant le grand facteur qui explique nos difficultés et nos échecs. Mais enfin, ça ne tient pas une seconde. Comment voulez-vous que l'on adhère à ce genre de proposition? Alors que moi, je pourrais vous expliquer comment l'immigration pourrait résoudre bien des problèmes auxquels nous nous trouvons confrontés.
Allez, en guise de conclusion, Dominique Régnier, il y a une problématique de grammaire gouvernementale ou de grammaire de ceux qui nous dirigent, disait à l'instant Bertrand Badi. Ce matin, dans le journal du dimanche, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, à propos de cette grande journée de mobilisation qui se prépare, dit « ne soyons pas pleurnichards », renvoyant à une France qui aurait cette espèce de grande dépression collective à considérer qu'elle est malheureuse, structurellement malheureuse, sans regarder ce qui se passe ailleurs, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ce discours-là qui existe beaucoup aujourd'hui, notamment au sein de la majorité gouvernementale ?
Mais la formule est d'une maladresse évidente, et elle rappelle des formules maladroites qu'avait il y a quelque temps le président lui-même et qu'il a cessé d'avoir. Il y a une forme de vérité dans la richesse de notre pays. C'est aussi à ça que ça fait référence, dans les conditions dans lesquelles nous vivons en France. Et en moyenne, elles sont très remarquables eu égard à l'histoire et au reste du monde. Mais il y a aussi un élément, je ne sais pas si c'était dans l'esprit de Richard Ferrand, mais je l'ajoute d'un mot, et puis c'est aussi pour par amitié pour Bertrand Badi que je l'ajoute. Moi, je suis frappé de voir que nous sommes dans des sociétés, sont en quelque sorte arrivés à un stade de blocage tout à fait impressionnant. On ne voit pas très bien parmi ceux qui vont manifester, lequel a des solutions à la situation qui se présente aujourd'hui et qui serait acceptée par tous les autres. Donc des sociétés très bloquées dans un monde qui me paraît, moi, être livré à la politique de puissance. Et je ne sais pas si la France est aujourd'hui...
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Je veux dire qu'il y a des grandes puissances qui s'activent, qui refont le monde. Je pense à la Chine, bien sûr, la Chine, qui s'activent, qui refont le monde et qui sont très offensives. Et je pense que nous ne sommes pas, et peut-être de moins en moins, équipés. On trace des horizons qui font l'économie de ces présences-là, et ce sera sans doute pourtant l'un des grands enjeux des années qui viennent.
Alors précisément, allons voir le vaste monde, passons à notre seconde partie, quittant la France pour le Moyen-Orient. Les analystes disent souvent que la crise syrienne a fait disparaître le conflit israélo-palestinien des radars internationaux. L'actualité, ou plutôt les actualités de ces derniers jours, le ramènent sur le devant de la scène.
France Culture, l'esprit public. Émilie Aubry.
Rouvrir le dossier israélo-palestinien suppose ces derniers jours de tirer plusieurs fils. Celui de la politique intérieure israélienne tout d'abord. Benjamin Netanyahou, alias Bibi, est devenu cette semaine le premier chef de gouvernement de l'histoire d'Israël à être inculpé pour corruption. Un véritable choc au sein de l'establishment israélien. Benjamin Netanyahou a pris la parole devant les caméras. D'emblée très clair, il a lancé « Je vais continuer à diriger le pays quoi qu'il advienne ». Avant de tirer tous azimuts contre la police, ses enquêteurs qui, selon lui, auraient agi comme des mafieux et les services du procureur, tous accusés d'avoir fomenté un coup d'État pour le renverser, faire tomber le gouvernement de droite. Puis est venu le tour des médias qui, dit-il, se sont mobilisés contre lui. Netanyahou a persisté dans la ligne qu'il défend depuis des mois. Il est la victime des institutions et de la gauche, soutenue par les formations arabes. Que va-t-il se passer à présent ? Selon la loi, un chef de gouvernement ne peut être ni limogé ni forcé à démissionner aussi longtemps qu'il n'est pas condamné par un tribunal. Alors après l'échec de Benny Gantz, le numéro 1 de la liste bleu-blanc, avoir formé une coalition gouvernementale, tout repart à zéro, nous y reviendrons ce matin. Le second fil à tirer de ce dossier israélo-palestinien nous emmène cette fois aux États-Unis, puisque cette semaine, l'administration Trump a fait une nouvelle entorse au droit international en annonçant que les États-Unis ne considéraient plus comme illégales les colonies de l'État hébreu en Cisjordanie occupées. Après la reconnaissance unilatérale de Jérusalem comme capitale d'Israël et celle de la souveraineté de l'État hébreu sur le Golan syrien, il s'agit d'une nouvelle décision spectaculaire en rupture avec la tradition diplomatique américaine, aussitôt saluée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et dénoncée par l'autorité palestinienne. Mike Pompeo a livré une conférence de presse lundi au département d'État à Washington pour se justifier, nous l'entendrons dans un instant. Enfin, troisième fil à tirer de ce dossier ce matin, l'inconnu du fameux deal du siècle annoncé par Washington, ce plan américain censé résoudre la crise au Moyen-Orient, promis depuis plusieurs mois par le clan Trump. Conflit israélo-palestinien, conflit oublié, réapparu en pleine lumière cette semaine, un coup de projecteur sur une absence totale de perspective.
Après avoir étudié prudemment tous les aspects du débat légal, cette administration s'accorde avec le président Reagan. L'établissement des colonies civiles israéliennes en Cisjordanie n'est pas, en soi, contraire au droit international.
Après avoir reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël, notre souveraineté sur la région du Golan, l'administration Trump a mis fin au mensonge selon lequel nos implantations sont illégales.
Voilà, l'administration Trump et Mike Pompeo qu'on a entendu au début, suivi de Benjamin Netanyahou et puis à l'instant l'un des négociateurs palestiniens, Saeb Erekat. Bertrand Badi, commençons peut-être par parler de la politique intérieure et cette inculpation pour corruption de Netanyahou. Est-ce que de toute façon elle change la donne pour l'avenir politique d'Israël ?
Certainement du point de vue de la constitution d'un gouvernement qui va être incroyablement compliquée, elle l'était déjà beaucoup, qui va être fortement compliquée par cet événement, qui est effectivement un événement important. D'ailleurs, par parenthèse, en écoutant vos extraits, je voyais un parallélisme entre le discours Netanyahu et le discours de Trump, la manière dont Trump juge son impeachment éventuel et dont Netanyahu parle de son inculpation actuelle, c'est exactement les mêmes thèses complotistes, dénonciation, stigmatisation de la presse et tout ce qui s'ensuit. Bon, il est évident que cet événement est un événement qui perturbe hautement un système politique israélien qui n'avait pas besoin de ça, tant il est bloqué parce que c'est très compliqué en Israël. Vous avez les religieux, vous avez les non-religieux, vous avez la droite, vous avez la gauche, vous avez coalitions qui sont des coalitions extrêmement fragiles parce que chaque petit parti dans ce système de proportionnel intégral essaye de jouer de sa capacité de blocage. Tout ça est très compliqué. Mais pour l'essentiel, ça ne change rien. Pour l'essentiel, vous avez raison de poser le problème en termes de conflits oubliés. Il s'est produit une dynamique qui est très intéressante, finalement assez rare dans les relations internationales, où le moteur, c'est le fait accompli. C'est-à-dire, effectivement, il ne se passe rien, il ne se passe plus jamais rien, c'est-à-dire, en gros, depuis Oslo, il ne s'est rien passé, et Oslo, faut quand même pas l'oublier, c'était il y a 26 ans, plus d'un quart de siècle, il ne se passe rien, mais souterrainement, il se passe plein de choses. Notamment, effectivement, un processus de colonisation qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 650 000 colons. Vous vous rendez compte de ce que c'est que 650 000 colons sur un territoire aussi exigu. Et peu à peu, c'est là le pari, en tous les cas, des dirigeants israéliens et singulièrement de Netanyahou, de dire cette politique silencieuse du fait accompli va peu à peu produire un nouveau droit. Et les États-Unis se présentent comme producteurs de normes, effectivement, qui va régler le problème. Et pourquoi va-t-il régler le problème ? Parce que les gouvernements arabes ont sorti la question palestinienne de leur agenda. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que le monde arabe vivait jusqu'en 1973, justement, de ce conflit pour pouvoir actualiser leur nationalisme, leur affirmation et donc leur légitimité. Maintenant, ils cherchent d'autres sources de légitimité. L'Europe, dans une politique, je dirais, anomique, parce que l'Europe ne s'est plus située dans le système international, devient
même absolument... si cette semaine, l'Union européenne s'est rapidement démarquée en rappelant sa position claire et inchangée
parole,
sur cette question
parole,
des colonies.
Comme disait quelqu'un qu'on aime bien. Bon. Et la Russie a choisi, alors que l'URSS se trouva le protecteur du monde arabe, et la source d'équilibre qui faisait que les États-Unis ne pouvaient jamais aller trop loin sur l'échiquier moyen-oriental, a établi, disons, de bonnes relations avec Israël, ne cherche plus à le contrer. La Chine se désintéresse complètement de ce conflit, car contrairement à ce que disait Dominique, la Chine ne cherche pas à s'intéresser à tout, et surtout pas au conflit moyen-oriental. Et donc, il n'y a plus personne. Il n'y a que le mouvement social palestinien, qui, pour des raisons que l'on connaît bien, est actuellement particulièrement essoufflé.
Alors pour terminer sur cette situation de politique intérieure israélienne, c'est vrai qu'on a aussi pu lire cette semaine qu'il y a désormais un autre baron du Likoud qui peut-être se prépare à former une coalition gouvernementale à la place de Netanyahou, à la place de Benny Gantz. Il s'appelle Gideon Saar, c'est un ancien ministre, il est l'actuel vice-président de la Knesset, c'est un disciple d'Ariel Sharon et il est lui-même hostile, il l'a dit à maintes reprises, à la solution des deux États. Ça veut dire, Manuel Savera-Marzal, qu'aujourd'hui, il ne peut plus y avoir de dirigeants israéliens qui continuent de croire à la possibilité de cette solution à deux États ?
Je ne sais pas, ce qu'il y a, c'est que cette possibilité d'une solution à deux États, elle est de plus en plus remise en question par ce que décrivait Bertrand Badi, à savoir la politique du fait accompli. Aujourd'hui, il faut regarder sur une carte ce qu'est devenu la Cisjordanie. La Cisjordanie, c'est des confettis, complètement éparpillés, où vous avez 2 millions de Palestiniens qui vivent dans un régime d'apartheid, parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots, c'est John Kerry lui-même qui le disait, en cohabitation. Pour le coup, ce mot est très mal choisi, avec 400 millions de colons qui ont comme ça leur colonie pour partie illégale, 400 000 colons qui... Et 650 000 si on compte ceux de Jérusalem-Est. Mais donc, comment vous voulez faire deux États, deux souverainetés sur un territoire qui est en fait un territoire complètement un grouillère avec des confettis partout? Mais de toute façon, il faudra bien effectivement avancer. Aujourd'hui, la politique américaine nous éloigne d'une solution avec tout ce que vous avez mentionné sur reconnaître l'annexion du Golan, l'annexion des colonies, etc. Mais il faudra bien trouver une solution puisque on vit aujourd'hui. Moi, je suis allé trois fois ces dernières années en Cisjordanie. Qu'est-ce que j'ai vu de mes propres yeux? J'ai vu des routes avec des panneaux marqués. Cette route, c'était en anglais, en hébreu, et réservée aux Juifs. C'est des routes en extrêmement bon état qui permettent aux colons de circuler un petit peu partout avec une totale liberté de mouvement. Et à côté, vous avez quoi? Vous avez un second réseau routier de petits chemins rocailleux qui est réservé aux Palestiniens, qui en fait ils n'utilisent même pas parce que ils sont enfermés chez eux, ils sont dans des prisons à ciel ouvert, mais pas seulement à Gaza. À Gaza, bien sûr, tout le monde le sait que Gaza, c'est une immense prison à ciel ouvert où vous avez 50% de chômage chez les jeunes, des pénuries de médicaments, des pénuries d'eau organisées par l'État d'Israël qui contrôle toutes les entrées et les sorties du territoire. Mais en Cisjordanie, c'est la même situation. À Jérusalem-Est, c'est une situation équivalente, puisque vous savez que les 200 000 résidents de Jérusalem-Est, suite à l'annexion en 1967, aujourd'hui, s'ils ont le malheur de vouloir partir à l'étranger pour aller voir leur famille, pour aller étudier, pour un simple voyage en tourisme, quand ils reviennent chez eux, on peut leur avoir pris leur logement. Donc les Palestiniens, aujourd'hui, sont assignés à résidence.
Merci pour ce rappel de ce qu'est aujourd'hui la situation intérieure. Je disais qu'il fallait tirer plusieurs fils dans cette affaire Monique Cantos-Perber et notamment aussi tirer d'autres fils de l'actualité de la semaine, à savoir qu'il y a ce contexte régional, bien sûr. Et il y a eu par exemple mardi le système de défense antimissile israélien qui a intercepté 4 roquettes tirées depuis la Syrie en direction du nord d'Israël. Alors du coup, bien sûr, mercredi, Israël a bombardé des sites militaires iraniens en Syrie. On ne peut pas dissocier le contexte national du contexte du moins régional lorsque l'on traite de ce sujet-là.
Donc certainement, vous avez tout à fait raison de poser la question en ces termes. Dans les deux cas, d'ailleurs, pour la politique intérieure israélienne et la question de la Cisjordanie et pour la situation au Moyen-Orient, le même qualificatif pourrait s'imposer, c'est désespérant. Sans tragique d'ailleurs, simplement, il n'y a plus tellement de raisons d'espérer quoi que ce soit. On ne sait même pas ce qu'on pourrait espérer comme règlement de paix. Moi, ce qui me frappe, c'est surtout cela. Pendant deux décennies, on a vécu avec l'idée qu'il y avait, on voyait assez bien quel était le contour d'un accord possible. On regrettait qu'il n'y ait peut-être pas les partenaires de part et d'autre capables de conclure cet accord. Coexistence pacifique, par échange de territoire. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. En effet, comme ça a été très bien rappelé, la situation du fait accompli rend cela impossible. Alors, aussi bien dans l'espace israélien et Cisjordanie, je reviendrai après, mais également au Moyen-Orient. Pour une raison très précise, c'est que tous les partenaires, aucun des partenaires ne veut vraiment le conflit. Personne ne veut l'engrenage qui deviendrait incontrôlable, mais tous ont intérêt à maintenir une très forte tension qui justifie des incursions, des expéditions punitives, des attaques, enfin une politique à la fois d'affichage et d'émission de signaux selon lesquels on ne se laissera pas faire. C'est cette sorte de d'instabilité plus ou moins contrôlée, autant qu'elle peut être contrôlée, qui est, semble-t-il, aujourd'hui le seul point commun entre tous les partenaires. Et ce qui me frappe, c'est que dans cet équilibre dans la tension, qui au fond résulte d'un pur rapport de force, au fond, il y a deux acteurs clés qui sont aujourd'hui Israël et l'Iran, parce que Israël est le seul à attaquer avec ses avions les implantations iraniennes en Syrie. La Syrie étant devenue le lieu de l'affrontement, en quelque sorte, et l'extériorialisation
du conflit israélo-palestinien.
Pas simplement israélo-palestinien, parce que comme vous l'avez très bien dit, ce n'est plus tout à fait la question, c'est maintenant. Il y a plusieurs conflits, il y a Israël-Iran, il y a Israël-Palestine, et il y a aussi sunnites-chiites, parce que quand même ce qui est frappant, c'est que les alliances sont en train d'évoluer. J'étais très frappée par des prises de contact l'année dernière entre l'Arabie Saoudite et Israël, qui devaient exister, mais qui là ont été rendues publiques, et également par le fait que les alliances sont en train de changer, enfin les choses se redistribuent. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et ce qui rend la situation, au fond, intrinsèquement incontrôlable, en dépit de ce que peuvent penser les différents acteurs, c'est la politique américaine, qui est un acteur clé dans la région, or qui est une politique extrêmement erratique, qui change, qui multiplie les effets d'annonce avant que ce soit suivi de positions, de mouvements de retrait, et qui, d'une certaine façon, a été absente lors de la guerre en Syrie, et absente lorsque cette guerre est en train de se terminer, la Russie et la Turquie, évidemment, surveillant la situation et avançant leur point. Donc là, je crois qu'il y a une donne internationale au Moyen-Orient qui est extrêmement inquiétante. Et la situation israélienne, au fond, n'est qu'à la fois un écho et une cause de cela. Mais en tout cas, il y a beaucoup de similitudes.
Alors en effet, Dominique Ragnier et puis Bertrand Badi, on voudrait vous entendre à la fois, en effet, sur ce que vous nous expliquez à l'instant, Monique Cantos-Perber, c'est-à-dire qu'au-delà du conflit israélo-palestinien, il y a aussi cet axe
iraniens qui chancellent et qui chancellent partout dans la région, de Bagdad à Beyrouth. L'Iran, ces derniers jours, est conspué dans les manifestations en Irak, dans les manifestations au Liban, où le Hezbollah notamment est conspué. Et puis il y a bien sûr ces manifestations qui sont en train de se dérouler en ce moment même en Iran et dont on ne sait pas grand-chose puisque l'accès à Internet a été coupé. Et puis de l'autre côté, il y a en effet l'attente d'une solution spécifique pour le conflit israélo-palestinien. On s'est habitué à attendre cette solution des États-Unis. Il y a ce fameux deal du siècle que nous annonce de façon tonitruante Donald Trump, mais sait-on encore ce qu'il contient ?
En tout cas, moi, je n'ai pas là-dessus d'informations ni de réflexions particulières. Ce qui me frappe, je reprends la remarque faite à l'instant par Monique Antosperber, ce qui me frappe, c'est que pour moi aussi, je veux dire, dans ma simple vie de citoyen, je me suis aperçu que l'idée d'une au fond d'une solution avait disparu en fait et n'est plus discutée, et je dirais que plus personne ne défend la cause palestinienne. C'est très frappant, plus personne. Les États arabes, c'est quand même pas récent hein, qu'ils aient laissé tomber la cause palestinienne, mais même les organisations qui sont censées aujourd'hui s'activer sont accusées d'islamisation, sont accusées de corruption, je pense au Hamas évidemment, dont le procès sur place vaudrait autant que celui qui est fait à Netanyahou si les structures étaient démocratiques. Donc on a une sorte d'effondrement qui garantit la persistance de ce malheur et qui sera, à n'en pas douter, un malheur pour les deux. Ça ne fait aucun doute. Alors c'est une parole très vaine de dire ça, mais c'est à coup sûr un malheur pour les deux. Et je voudrais ajouter à ça la réflexion par laquelle une remarque sur ce que vous disiez au départ, Émilie Aubry, s'agissant de ce système démocratique israélien qu'on peut regarder dans son dysfonctionnement avec ses particularités. Bien sûr, c'est une démocratie particulière dans un univers singulier, des problèmes spécifiques, mais cependant on y retrouve aussi ce que je trouve ailleurs dans d'autres démocraties, une sorte d'incapacité aujourd'hui à réguler par des procédures démocratiques ses propres crises internes. Le système israélien aujourd'hui semble ne plus pouvoir produire de solutions. C'est peut-être le mode de scrutin, cette proportionnelle impossible qui donne une dispersion partisane qui rend les coalitions ou bien difficiles, voire impossibles, ou bien très fragiles. Il est probablement difficile de revenir sur un tel mode de scrutin en raison des motivations qui le portent, notamment de la représentation de toutes les sensibilités internes à la démocratie israélienne. Mais aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est de voir qu'au fond, on ne sait pas bien quelle nouvelle élection va produire, quelle nouvelle situation qui rendrait davantage possible une solution politique interne d'abord avant bien sûr d'aborder la question du rapport à l'extérieur. Et donc c'est à la fois une crise, je dirais, de l'État d'Israël et du système israélien, mais c'est aussi une expression de la crise démocratique que l'on peut observer aujourd'hui en Israël aussi.
Alors, quelle lecture, quelles explications selon vous, Bertrand Badi, du fait justement qu'aujourd'hui, comme le disait Dominique Régnier, plus personne ne croit même possible la solution d'une paix à deux États, plus personne ne réfléchit à un scénario de paix?
Oui, alors il faut déjà introduire une petite nuance. Plus personne ne soutient la cause israélienne, sauf la rue.
Palestinienne, disait Dominique Régnier.
Palestinienne, sauf la rue. C'est-à-dire, regardez tout ce qui se passe dans les rues d'Alger, ce qui se passait du temps de la révolution égyptienne, du temps de la révolution tunisienne, le drapeau palestinien est toujours très présent. C'est-à-dire que dans l'imaginaire du peuple arabe, du monde arabe, c'est une cause qui demeure, et loin des stratégies politico-diplomatiques de leurs États. Source probablement d'une nouvelle coupure entre les sociétés et les pouvoirs politiques dans le monde arabe. Je voudrais revenir sur la question de l'Iran, parce que effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est un des éléments clés. Pourquoi est-ce un des éléments clés? Parce qu'on sait que de toute manière, il y a une crise régionale, beaucoup plus qu'un face-à-face israélo-palestinien. Et cette crise, elle est systémique, c'est-à-dire tout le monde dépend de tout le monde. Et ce qui est frappant dans ce qui est en train de se produire actuellement, c'est que lorsque l'Iran est en situation d'être dominée par exemple par la pression américaine, elle gagne. Quand elle est en situation de vouloir dominer les autres, l'Irak, le Liban, éventuellement la Syrie, elle perd. Et ça, c'est vraiment l'expression de notre monde nouveau. C'est-à-dire que lorsque on vous refuse un rôle, et ça a été tout le problème, refuser systématiquement à l'Iran et d'un certain point de vue aussi à la Turquie, un rôle de puissance régionale, c'est-à-dire d'acteur militant pour changer la donne au Moyen-Orient. Quand on vous refuse cela, vous encaissez les bénéfices de l'humiliation que vous avez subie. Lorsqu'au contraire, vous vous projetez, que vous vous présentez comme le gendarme de vos voisins, à ce moment-là, vous êtes conspué par les foules. Ça, c'est quand même une donnée étonnante de notre nouveau monde. Alors, est-ce qu'il peut en sortir un début de solution pour la question palestinienne? Moi, personnellement, je ne le crois pas, parce que la crise moyen-orientale a pris une telle dimension, vous le disiez d'ailleurs très justement tout à l'heure, que la question palestinienne elle est enfouie. Je ne crois pas qu'elle soit enfouie dans un conflit sunnite-chiite. Le Hamas est très près de l'Iran. Et le Hamas, il n'y a pas plus sunnite que le Hamas. Là-bas. Donc, il faut faire très très attention à ces choses-là. La Syrie n'a rien de chiite, et pourtant, elle est dans cet axe. Faut faire très très attention. On voit au Liban que même l'opposition sunnite-chiite commence à vaciller dans ces éléments structurants. En fait, la crise, elle est beaucoup plus profonde.
Et on le voit aussi en Irak, où on a désormais un chiisme qui se tourne contre l'Iran.
Et oui, mais qui est, alors c'est très intéressant, parce que qui est quand même un chiisme, le rôle de l'ayatollah Sistani, qui est en quelque sorte...
Ou de Moqtada al-Sadr, ou de gens comme ça.
Oui, alors justement... c'est deux leaders tout à fait différents. Murtada al-Assad, c'est le tribun du peuple, du petit peuple chiite. Bon. Sistani, c'est le leader spirituel qui veut inclure l'ensemble de la communauté chiite. Tous ces gens se distinguent de l'Iran aujourd'hui. Ce qui prouve que le facteur religieux n'est pas structurant d'un jeu politico-diplomatique.
Alors, à la fois, Monique Cantos-Perber, sur le fait, comme l'indique à l'instant Bertrand Badi, que la République islamique d'Iran serait la grande perdante au fond de ce contexte et de ce vent de révolte, et puis sur ce deal du siècle sur lequel on n'est pas encore vraiment revenu, c'est-à-dire ce plan de paix que nous annonce l'administration Trump depuis des mois et qui ne vient pas et dont on n'est pas sûr non plus de très bien comprendre ce qu'il contient.
Il a été en partie présenté à Bahreïn au printemps dernier, dernier, et on a compris qu'il s'agissait d'un plan essentiellement économique. La solution politique n'a pas été mentionnée. Enfin, ça ne veut pas dire ce plan...
Un volet économique avec un ensemble de grands projets pour un volume d'investissement de 50 milliards de dollars pour cette région.
Ouais. C'est cela. Et d'améliorer considérablement la vie matérielle des Palestiniens. Je voudrais revenir sur le point de vue israélien, parce que ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'au fond, il n'y a pas de vision de paix. Ni Faucon, ni Colombe. Ni du côté des durs, ni du côté des doux. D'une certaine manière, personne n'a présenté un plan de paix à partir duquel, enfin un plan de coexistence, ou une solution en tout cas, à partir duquel on pourrait discuter. De notre côté, la société civile israélienne n'est pas composée que de fanatiques colonisateurs ou impérialistes, et il y a une véritable empathie avec les conditions de vie des Palestiniens qui ont été rappelées, qui sont extrêmement dures, 1600 checkpoints. Vous rendez compte ce que ça signifie, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir véritablement de projection internationale, de relations, sans parler des deux parties coupées. Moi, ce qui me frappe dans tout ça, c'est la diffusion d'une forme de pessimisme historique, au fond qui serait la vision politique de Netanyahou. C'est-à-dire, il n'y a plus de paix possible. C'est une note bien pessimiste pour terminer une émission.
Eh bien, nous resterons sur ce pessimisme historique. Il est difficile, en effet, de conclure différemment cette émission. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir été nos visiteurs du dimanche. Merci à Luc-Jean Reynaud qui a réalisé cette émission, à Marine Descarelli, comme toujours, qui l'a préparée avec moi, à la technique aujourd'hui, Alexandre Dang. Tout de suite, et comme toujours, un peu de douceur, justement, dans ce monde angoissant avec les bonnes choses de Caroline Brouet. Vous allez voir, on va boire d'exquis nectar. Boire pour oublier, peut-être. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine, 11h.